On va parler maintenant de la recherche, Nicolas Villain. C'est votre tour, vous ne pourrez commenter après l'intervention de votre collègue. On va changer complètement de thématique pour parler maintenant de recherche avec beaucoup de nouveautés. Alors vous êtes neurologue, chercheur à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous suivez de tout près ces avancées de la science. On vous écoute.
Tout à fait, merci. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être là cette année. J'espère que certains parmi vous étaient là l'année dernière. Je vais faire quelques petits rappels par rapport aux avancées qu'on avait déjà vues ensemble l'année dernière. Donc, il s'est passé beaucoup de choses cette année et donc je vais essayer, pareil, en 20 minutes. Hein, le but n'est pas d'être exhaustif. Il y a un filtre, ça a été le mien, il y a un parti pris individuel sur les données que je vais vous présenter. Donc vous avez probablement entendu parler d'autres choses qui ne sont pas dans cette présentation, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est juste que j'ai pris le parti de me focaliser sur certaines choses. On va parler de médicaments, donc c'est important de vous présenter mes conflits d'intérêts. Je n'ai pas de lien d'intérêt financier personnel avec l'industrie, je n'ai pas non plus de lien d'intérêt stratégique avec l'industrie, je ne fais pas partie de board, je ne touche pas d'argent directement de l'industrie. En revanche, je suis investigateur principal ou sous-investigateur, c'est-à-dire que je coordonne certains essais de médicaments qui sont menés dans l'équipe clinique et de recherche dans laquelle je travaille à la Salpêtrière. Donc à ce titre-là, mon établissement touche de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Donc voilà ce dont on va parler. On va parler des nouveautés concernant la connaissance de la maladie. On va parler des nouveautés concernant le diagnostic de la maladie, notamment avec les biomarqueurs sanguins et certaines applications digitales. Et enfin, ce qui va nous prendre la plupart du temps, c'est les nouveautés médicamenteuses qui ont un peu occupé l'espace médiatique et à juste titre. On commence par les connaissances. Un article sorti il y a 3 semaines dans Nature Medicine qui montre on a possiblement trouvé un nouveau gène protecteur de la maladie d'Alzheimer, quelque chose qu'on n'avait pas encore identifié là. Alors comment ça s'est produit? C'est une équipe colombienne qui a décrit ce cas, c'est un cas unique d'un patient qui souffre d'une forme autosomique dominante de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le cas d'Alice dont on vient de vous parler. Donc elle a une mutation sur un gène et le patient en l'occurrence avait la mutation sur un gène donc devait développer les symptômes avant 50 ou 60 ans. Et là, à 67 ans, le patient ne présente pas de symptômes, alors les scientifiques s'interrogent sur son cas et ils découvrent qu'en plus de sa mutation Alzheimer, en fait, il a une autre mutation sur un gène qui s'appelle la Reelin, qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, qui est on ne connaît d'ailleurs toujours pas très bien son rôle parce qu'il est un peu découvert avec cet article, mais en tout cas, ça nous ouvre des voies, cette découverte sur une potentielle voie moléculaire qui pourrait être protectrice. Vous voyez, ce patient était à fort risque de développer la maladie et en fait, une autre mutation vient quelque part le protéger. Donc, vu que c'est un gène qu'on ne connaissait pas, nous, ça nous ouvre des perspectives pour essayer d'aller comprendre comment ça marche, comment ça protège exactement de la maladie. Voilà, en image, en gros, donc ça, c'est le patient, et ça, c'est ce qu'il aurait dû être sans sa mutation. Plus c'est rouge, moins c'est bon. Et donc, vous voyez que le patient, en haut, est aussi rouge que ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amyloïdes. Et en revanche, en bas, vous voyez qu'il est moins rouge. Là, c'est ce qu'il aurait dû être, ça, c'est ce qu'il est. Il est moins rouge que ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire qu'il a moins de pathologie tôt, et c'est pour ça qu'il a moins de symptômes. Donc, il a un aspect protecteur par rapport à sa maladie. Donc, voilà une nouveauté de l'année. Une nouveauté concernant le diagnostic. Alors l'année dernière, je vous avais longuement parlé des biomarqueurs plasmatiques. Donc je ne vais pas en reparler en détail. Alors c'est quoi un biomarqueur plasmatique? C'est faire le diagnostic des modifications moléculaires qu'on a dans le cerveau lorsqu'on souffre de maladie d'Alzheimer, à savoir notamment donc, nos neurones qui présentent des modifications moléculaires singulières comme l'agrégat de protéines bêta-amyloïdes ou l'agrégat de protéines tau dans les neurones. Ça, on peut le mesurer avec des images, etc. On peut aussi le mesurer en faisant des ponctions lombaires, en dosant ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et désormais, on peut le mesurer dans le sang. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un effet concentration. On divise de 20 à 100 la quantité de ces molécules quand on passe du liquide céphalorachidien au sang. Mais les progrès méthodologiques ont fait que désormais, on peut mesurer ces protéines tau et ces protéines bêta-amyloïdes dans le sang. Ça, c'est ce que je vous avais présenté l'an dernier. Et donc, ça, c'est un domaine très, très actif hein, de la recherche. Hein, je vous présente que de manière très superficielle les choses. Il y a plus d'une centaine d'articles qui sont sortis sur le sujet dans l'année. Donc, autant vous dire que les chercheurs s'intéressent beaucoup à cette question de faire ces dosages dans le sang. Parmi ceux que je voulais vous présenter, il y a des travaux essentiellement d'équipes suédoises, mais aussi de collaboration américano-suédoise. À gauche, un travail suédo-américain qui est fait par mes collègues, qui est un travail trop rare où tous ces essais de dosage dans le sang sont comparés les uns par rapport aux autres. Et plus ça va vers un, mieux c'est. Donc vous voyez qu'il y a quand même des tests de dosage dans le sang qui sont plus performants que d'autres. Et donc ça a suffisamment de nouveautés pour être présenté, puisque si vous voulez, ces dosages dans le sang sont développés par des industriels, hein, donc ils développent leurs brevets, etc. Et évidemment, leur but, ce n'est pas de se comparer directement avec la concurrence. Donc, ils développent chacun dans leur coin, ils montrent que ça marche de leur côté, mais après, on ne sait pas très bien combien ça marche par rapport aux autres. Donc, au moins, cet article remet l'église au centre du village et nous montre que, notamment, c'est un de ces marqueurs, le phosphoto 217, qui soit développé par Lilly ou l'Université de Washington ou Janssen, qui sont les plus performants. Et puis, les chercheurs manquent jamais d'imagination. Donc là, ils vont une équipe suédoise, à nouveau, qui a développé un nouveau traceur à doser dans le sang, donc qu'on ne dosait pas encore l'an dernier et qu'on ne dosait certainement pas dans cette étude, qui s'appelle le brain-derived tau, donc le tau qui vient du cerveau, par opposition au tau qui peut venir d'autres organes du corps, comme le rein, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avec l'ancienne version, et ça c'est ce qu'on fait avec la nouvelle. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, vous voyez, les histogrammes sont très séparés, ça veut dire que ça marche mieux. Donc voilà, à suivre parmi les nouveautés de l'année. Les applications digitales, alors là je voulais vous faire quelque chose de très égocentrique, puisque c'est une application digitale qu'on a développée à la Pitié-Salpêtrière qui s'appelle Santé Cerveau et qu'on a validée cette année avec un article qui vient d'être publié, donc je voulais vous en parler. Donc c'est une application qui est un dispositif médical classé comme tel, donc classé CE, qu'on peut télécharger, qui marche pas sur téléphone, en revanche seulement tablette, ordinateur, qui va proposer tout d'abord une série de questionnaires pour mieux vous connaître, âge, genre, niveau d'études, vos antécédents médicaux, traitements, etc. Évaluer qualitativement votre plainte de mémoire avec différentes échelles validées et puis vous proposer des tests sur l'application qui sont des tests qui existent déjà, hein, rien de nouveau dans les tests, mais qui ont été digitalisés et validés comme tels en version digitalisée. Et donc voilà, on a publié l'article il y a 2 mois maintenant. C'est notamment le docteur Stéphanie Bombois, que je tiens d'ailleurs personnellement à remercier pour m'avoir donné ces diapositives, qui a finalisé le travail sous la supervision du professeur Dubois, que vous connaissez bien. Et donc on a montré que finalement dans ce travail, l'application digitale faisait à 90%, 96% aussi bien dans le diagnostic que les tests qu'on fait pendant 2 heures avec les neuropsychologues qualifiés. Donc ça ne le remplace pas, ce n'est pas aussi bien, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est un outil intéressant.
Ce sont des tests qu'on peut faire chez soi sans l'aide d'un médecin ou il faut être accompagné ?
Alors on va y venir.
Oh, excusez-moi.
En théorie, justement, il pourrait tout à fait être fait chez soi. Ce qu'on veut éviter, justement, c'est que ce soit mal utilisé et mal interprété, puisque ça va vous donner des chiffres et des résultats dont on ne saura pas quoi faire. Donc, toute notre idée, ça a été de développer l'application, de la valider scientifiquement, ce qu'on vient de faire là, et de travailler en collaboration avec l'Agence régionale de santé, l'ARS d'Île-de-France, pour mettre en place justement un parcours de soins pilotes. C'est-à-dire que le médecin reste aussi, et les paramédicaux restent partie prenante dans la démarche diagnostique. Notamment, ce qui se faisait actuellement, c'est que quand un patient exprime une plainte amnésique, il va chez son médecin, qui va ensuite pouvoir prescrire justement l'application Santé Cerveau. Donc l'application pourra être disponible sur tablette, par exemple au cabinet. Il pourra faire passer les tests en direct, lui rendre les résultats au médecin, qui pourra lui les interpréter, et ensuite vous orienter rapidement, vous voyez, plutôt que le médecin généraliste, qui en général, malheureusement, n'a pas le temps de faire de tests ni d'avancer dans le diagnostic. Donc ça permet d'avoir un outil disponible en consultation de soins primaires, donc auprès du médecin généraliste. Ce n'est pas encore disponible, c'est un projet de soins, mais voilà, qu'on va essayer de mettre en place maintenant que l'application a été validée d'un point de vue scientifique. Voilà, ça j'avance. Donc, les médicaments maintenant. Les médicaments, pareil, j'ai fait un choix tout à fait subjectif de vous présenter les plus avancés dans les stades de développement. Ça, ce diagramme très compliqué, c'est un cercle qui représente l'ensemble des médicaments à l'étude à l'heure actuelle dans la maladie d'Alzheimer. Chaque petit rond ou triangle représente un essai thérapeutique représente soit quand c'est dans les essais de phase 1 qui sont à l'extérieur du cercle, quelques dizaines de patients, dans les essais de phase 3, quelques milliers de patients. Donc vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup d'essais différents, et vous voyez que chaque petit rond, petit carré, petit losange, ce que vous voulez, pentagone, représente une molécule aussi différente. Donc il y a beaucoup de pistes qui sont creusées, et je ne vais pas tout vous présenter, parce que vous imaginez bien qu'en 20 minutes, on ne va pas tenir. Je vais vous présenter celles qui sont les plus prometteuses, à savoir celles qui sont les plus proches du centre. Celles les plus proches du centre, c'est les essais qu'on dit de phase 3, donc c'est vraiment les derniers stades de développement du médicament, ceux où on le teste vraiment sur des milliers de patients, dans des conditions les plus drastiques d'un point de vue méthodologique, pour voir si vraiment ça marche ou pas. Jusqu'avant, on a des essais de plus en plus gros, de plus en plus restrictifs, mais qui nous permettent juste de nous assurer essentiellement de la sécurité du médicament, et à la fin, on teste vraiment si ça marche. Donc, je vais vous parler de ces essais de phase 3. Et je vais les décliner sous deux formes, ce que j'ai appelé le futur simple, c'est-à-dire ce qui risque très probablement d'arriver, et le conditionnel, ce qui est pour le coup beaucoup moins certain. Le futur simple, c'est cet essai qui a été publié au mois de janvier de cette année dans le New England Journal of Medicine, donc le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, qui est un des plus grands journaux médicaux internationaux, et qui présente les résultats d'un essai de phase 3 du lecanemab, vous voyez lecanemab, au stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc je vais vous en dire deux mots. C'est un essai qui a été conduit donc sur 1800 patients dans le monde, avec à peu près 900 patients traités, 900 patients traités par placebo, donc qui a été mené pendant 18 mois. Vous voyez ici, vous avez le temps pendant 18 mois. C'est des patients qui étaient au stade dit précoce de la maladie d'Alzheimer, soit qui avaient un trouble cognitif dit léger sur les tests, mais sans que ça retentisse sur leur quotidien, ou des patients avec qui ça retentit déjà sur le quotidien, mais pour autant, le stade est considéré comme léger. Donc voilà les patients qui étaient inclus dans cette étude. Ils avaient tous eu une recherche, soit par ponction lombaire, soit par PET scanner, que c'était bien une confirmation de maladie d'Alzheimer, et on leur a donné ce médicament. Donc ce médicament, c'est quoi? C'est un anticorps. Un anticorps, c'est une molécule qu'on fabrique nous-mêmes dans le sang pour nous défendre contre les bactéries, les virus, ce que vous voulez, tous les corps étrangers. Et là, il a été donc synthétisé en laboratoire pour se diriger spécifiquement contre les plaques amyloïdes que je vous ai présentées tout à l'heure dans le petit graphique, qui sont ces protéines anormales qui s'accumulent dans l'Alzheimer. Donc ce sont des anticorps anti-amyloïdes qui ont été synthétisés et qu'on va perfuser toutes les deux semaines, ce sont des perfusions, donc intraveineux, toutes les deux semaines à l'hôpital, aux patients pendant 18 mois, donc 36 perfusions. Ça, c'est le résultat principal. Là, vous avez une échelle de sévérité des troubles cognitifs qui s'appelle l'échelle CDRSB, qui est une échelle qui va de 0 à 18 points, 0 étant j'ai 0 trouble cognitif, 18 étant les stades les plus avancés de la maladie. Au bout de 18 mois, vous voyez que le bras placebo, qui est le petit dessin en noir, a perdu 1,6 points sur cette échelle quand on fait 18, alors que le bras traité a perdu 1,2 points, ce qui est significativement différent du hasard, donc ce n'est clairement pas un biais méthodologique ou du bruit que nous sommes en train d'observer. Et c'est ce sur quoi communique le laboratoire, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, le groupe qui arrivait à 1,2 points versus 1,6 points, il y a une différence relative d'efficacité de 27% et une différence absolue de 0,45 points sur cette échelle quand on porte 18. Voilà le résultat majeur de cette année. C'est une nouveauté, on n'avait jamais eu pour l'instant d'essai de phase 3 de cette ampleur avec un traitement de ce type significatif sur des symptômes cliniques. On savait que ça marchait sur les PET scans, etc., mais il y avait toujours eu des polémiques, notamment son cousin précédent, l'aducanumab, avait fait grand bruit autour de la polémique qu'il avait induit parce que l'essai était méthodologiquement beaucoup plus critiquable. Là, il n'est pas critiquable, le résultat est robuste. Il est retrouvé sur cette échelle et sur plein d'autres, donc il existe. En revanche, ce que je vais faire avec vous, c'est essayer de le mettre en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire finalement 0,45 points sur une échelle qu'en vaut 18 Ceci est d'autant plus certain, on va dire, que l'effet que l'on observe n'est pas dû au hasard, parce qu'un concurrent, donc le médicament que je vous ai présenté, lecanemab, est développé par Eisai. Là, c'est Lilly, donc une autre compagnie pharmaceutique, qui a aussi communiqué qu'elle-même a développé un cousin du lecanemab qui s'appelle le donanemab, le 3 mai dernier, vous voyez, il y a un mois, qu'aussi ils ont sur un anticorps anti-amyloïde qui marche. Alors, on n'a pas encore beaucoup de détails, eux, parce qu'ils sont un petit peu en retard, ils viennent juste de faire le communiqué de presse, on n'a pas l'article scientifique encore, donc on n'a que quelques éléments de langage dans le communiqué de presse. Si j'ai essayé de représenter graphiquement, de la même façon que je vous ai présenté les résultats pour le lecanemab, eux, ils observent au bout de 18 mois, donc c'est à peu près les mêmes patients, à peu près la même durée d'étude, à peu près le même type de médicament, pris pendant 18 mois également, et à la fin, donc, le groupe placebo s'aggrave un peu plus que dans l'essai lecanemab où il était à 1,6 points, là il est à 1,9 points, et le groupe traité, lui, il s'aggrave à peu près d'1,25 points, ce qui fait une différence absolue de 0,68 points, et une différence relative de 36% d'évolution à la fin de ces 18 mois. Bon, il y a une petite subtilité, c'est qu'eux, ils ont utilisé un PET taux pour les critères d'inclusion, je ne rentre pas dans les détails, voilà. Donc essayons maintenant de mettre en perspective ces résultats qui souvent, lorsqu'ils sont communiqués par les laboratoires, vous disent voilà, on ralentit de 30% la progression de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est les 27 et les 36% que je viens de vous présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Alors ça, c'est l'évolution de la maladie d'Alzheimer avec cette échelle qu'ils ont utilisée dans ces études, cette échelle CDRSB qui va, comme je vous le disais, de 0 à 18. Alors là, il y a juste un petit exercice de rotation mentale, c'est-à-dire que dans les graphiques que je vous ai représentés, qui sont ceux produits par le laboratoire, quand les patients s'aggravent, ils vont vers le bas. Là, c'est l'inverse sur cette représentation, quand les patients s'aggravent, ils vont vers le haut. Donc la maladie d'Alzheimer s'étend sur environ 25 ans, et vous voyez que l'échelle CDRSB reste longtemps proche de 0, 0,5, 1,5, puis après monte jusqu'à 18 points dans les dernières années d'évolution de la maladie de manière exponentielle. Donc voilà ces 0 à 18 points. Le stade de troubles neurocognitifs mineurs, qui est le stade où les patients ont des symptômes sur les tests mais ne retentissent pas sur le quotidien, ça va grosso modo de 0,5 à 4 sur cette échelle qui va de 0 à 18. Et puis après de 4 à 9, c'est le stade qu'on appelle de troubles neurocognitifs majeurs, donc ça interfère avec le quotidien, mais c'est encore léger, donc 4 à 9, puis après ça devient modéré de 9 à 16, et c'est considéré comme sévère de 16 à 18. Bon, les frontières sont un peu arbitraires, mais c'est juste pour vous donner une représentation et des points de repère. L'étude, lecanemab et donanemab, sur 18 mois, ça représente cette fenêtre d'évolution de la maladie. On s'intéresse sur 18 mois de la maladie à son stade dit précoce, c'est-à-dire au stade de troubles neurocognitifs légers et de démence légère. Donc c'est à peu près à cette frontière-là. Donc voilà exactement ce qu'on mesure sur toute l'évolution de la maladie. Donc je suis obligé un peu de zoomer pour vous montrer l'effet du médicament parce que là il est tout de suite moins impressionnant. Vous voyez que ces 0,45 points, c'est 27%, en fait, ils sont représentés de cette façon là-dessus. Donc là, c'est vrai que tout d'un coup, hein, quand on fait un zoom sur l'histoire globale de la maladie, c'est un peu moins impressionnant. Néanmoins, on peut, et c'est la nouveauté avec ces médicaments, se dire que potentiellement ils vont interférer avec l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire que vu qu'ils vont toucher, ils vont s'attaquer à l'amyloïde qui est une des causes de la maladie d'Alzheimer, bah, finalement ces 27% vont rester 27% tout le long des années, en gros la dizaine d'années qui séparent, c'est très variable hein, d'un individu à l'autre, à nouveau c'est juste pour imager les choses de manière graphique, la dizaine d'années qui sépare ce stade de la maladie du stade dit de troubles neurocognitifs majeurs au stade sévère. Donc si ça fait 27% finalement, et si ça reste comme ça tout le long, c'est une très bonne nouvelle parce que sur les 10 ans grosso modo d'évolution qui reste avec cette maladie, il y a 30 mois de gagné. 30 mois, c'est quand même 2 ans et demi et c'est pas rien, hein, ça fait voilà, 27% sur les 10 ans, donc c'est énorme et ce serait vraiment le premier résultat majeur concernant le traitement de la maladie d'Alzheimer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore à ce stade, et si ces traitements, finalement, ils marchent sur 18 mois et après ils s'arrêtent de fonctionner, eh bien on pourrait avoir ça, ce qui est beaucoup moins intéressant, puisque bah, sur 10 ans, on gagnerait 4,8 mois. Donc ça, c'est pour vous mettre en perspective l'efficacité du traitement. Deuxième point à souligner quand même, ces médicaments, c'est qu'ils peuvent donner des effets secondaires. Vous allez me dire, comme tout médicament, et vous avez raison. Là, les effets secondaires graves, c'est ceux que je vous souligne, ce sont des œdèmes et des hémorragies cérébrales qui, dans 90% des cas, ne donnent aucun symptôme et disparaissent d'eux-mêmes. Mais malheureusement, chez 1% des patients traités, 42 sur 4079 qu'on a relevé dans une méta-analyse, ces hémorragies et ces œdèmes sont graves. Graves voulant dire menant au moins à l'hôpital. Et malheureusement, 7 patients ont déjà décédé du fait d'effets secondaires de ce traitement. Un pour l'aducanumab, 3 dans la phase d'extension du lecanemab et 3 communiqués par Lilly sur l'essai donanemab. Donc voilà les bénéfices et les risques de ce traitement. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est ? On en est à l'étape régulation, c'est-à-dire que le laboratoire a déposé son dossier à l'Agence européenne du médicament et à l'Agence américaine aussi. Et donc ça veut dire que potentiellement, si l'Agence européenne, qui devra donner sa réponse d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, dit oui, on pourrait avoir une possible, ce qu'on appelle autorisation d'accès précoce, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une autorisation de mise sur le marché, si le régulateur européen donne son feu vert, dans les 6 mois, grosso modo, en France, si le laboratoire fait la démarche, on peut avoir de manière ce qu'on appelle précoce, donc l'autorisation d'accès précoce, le médicament prescriptif. Ce qui veut dire que, en fait, possiblement, ce médicament, selon les résultats de l'Agence européenne du médicament et selon les résultats des décisions de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, on pourrait possiblement avoir ce médicament disponible l'année prochaine. Ce qui pose beaucoup de questions. Et en fait, comme je vous ai dit, il y a ce bénéfice qui reste modeste après 18 mois, qui pourrait peut-être s'amplifier, et ses effets secondaires. Donc, en plus, ce sont, comme je vous dis, des perfusions 2 fois dans le mois, et il y a toute une surveillance à faire par IRM. Donc, si ces médicaments arrivent, ça va être un réel bouleversement, à la fois pour les patients, et c'est une bonne nouvelle, mais aussi pour le système de soins, ça c'est pour nous. Et donc il va falloir qu'on s'organise. Et justement, donc en ce moment, on a plusieurs groupes de travail avec la Fédération des Centres Mémoire, dont un auquel je participe, parce qu'il va falloir qu'on s'interroge sur nos pratiques, sur la façon de diagnostiquer. Si un médicament arrive et qu'il marche et qu'il est autorisé, il va falloir plus le prescrire. Or, ce médicament est prescriptible sur des patients à un stade précoce et avec la preuve de protéines amyloïdes. Donc il va falloir faire ces examens de biomarqueurs à beaucoup plus de monde. Donc il va falloir qu'on révise notre façon de faire le diagnostic pour le rendre plus accessible. Il va falloir qu'on discute sévèrement les indications et les contre-indications de ce traitement. Vous avez vu, l'effet est ténu, il y a des effets secondaires non négligeables. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse aux sous-groupes de patients les plus à même de plus bénéficier et avoir moins de risques. Il va falloir qu'on discute aussi des modalités de surveillance pour éviter ces effets secondaires. Il va falloir qu'on établisse des protocoles pour gérer ces effets secondaires graves. Qu'on discute aussi, puisque ça va être des traitements 2 fois par mois au long cours, comment ça va s'articuler avec la ville, avec les médecins traitants, comment on va former nos collègues aussi, qui ne sont pas spécialistes, qui ne connaissent pas encore ce médicament, et puis comment on va devoir quantifier ça en termes de besoins pour nos décideurs politiques. Voilà, donc ça c'est la plus grosse nouvelle de cette année, c'est donc une phase 3 positive avec un anti-amyloïde.
Il y aura aussi la question du patient. Est-ce qu'il aura envie de prendre le risque d'avoir cet effet secondaire qu'on ne pourra peut-être pas lui assurer qu'il va y échapper ?
Évidemment.
Et puis, on est en début de maladie, donc les personnes vont encore bien. C'est quand même aussi beaucoup de questions éthiques, là.
Évidemment.
Des questions qui se croisent avec l'intervention précédente.
Et ce sera au cœur, évidemment. Alors, je ne suis pas revenu sur cette question parce que, pour moi, elle est simple, c'est-à-dire qu'elle... Elle correspond à n'importe quelle prise de décision thérapeutique. Aujourd'hui, depuis la loi Kouchner de 2002, le patient prend sa décision, donc évidemment de manière informée par le médecin et en la présence de son aidant. Donc ça, c'est comme n'importe quel médicament qu'on doit prescrire à un patient, c'est évidemment lui qui décide. Les médicaments au conditionnel. Alors là, je vous montre, je vous ai présenté les cercles et les points les plus au centre, ceux qui sont le voilà, pour lesquels il y a des dossiers déposés vraiment aux agences de régulation du médicament, donc possiblement sur le point de sortir et d'être disponible. Là, je vais vous présenter ceux qui sont beaucoup plus en amont dans les phases de développement. Alors, vous avez vu, il y en a des centaines. J'en ai sélectionné deux, un peu au hasard, parce que c'est ceux auxquels je crois le plus personnellement, mais évidemment, ça n'engage que moi. Je voulais dire un mot rapide des médicaments anti-taux. Vous avez vu qu'il y avait deux protéines qui s'agrégeaient principalement dans la maladie, la protéine amyloïde, et là on a le lecanemab, le donanemab qui sont sur le point possiblement de sortir. Et on a aussi cette protéine tau. Alors cette protéine tau, elle nous pose plus de problèmes parce qu'elle est située dans les neurones et donc c'est plus difficile d'y accéder. C'est pour ça que les traitements sont un petit peu en retard alors que l'amyloïde est en dehors des neurones, donc elle est un peu plus facile à atteindre. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de déceptions avec les anti-taux. Il y a deux essais qui sont arrêtés en cours parce que ça ne marchait pas. Mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'essais en cours avec beaucoup d'autres anticorps anti-taux qui sont en cours. Vous voyez, il y en a plein. Donc voilà, c'est possiblement des pistes. Et là, le mois dernier aussi, est sorti dans Nature Medicine, un autre grand journal médical, un nouveau dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, une thérapie qu'on appelle les oligonucléotides antisense. Alors là, c'est un petit brin d'ARN messager qui est une sorte de produit intermédiaire entre votre ADN et la protéine. Votre ADN contient une information et puis elle est traduite pour devenir une protéine. Et l'intermédiaire, c'est l'ARN messager, vous connaissez avec les vaccins contre le Covid, les vaccins ARN messager, c'est exactement le même principe. Alors là, on va utiliser aussi l'ARN messager. On va l'utiliser pour qu'il aille se fixer sur des ARN que vous produisez vous-même pour produire une protéine. Et pour que ça le bloque. Du coup, comme ça, on ne produit plus la protéine toxique. En l'occurrence, c'est la protéine tau qui s'agrège. Donc, on s'est dit, si on ralentit sa production avec un ARN messager, eh bien, ça va peut-être calmer l'agrégation. C'est au moins le pari que font les chercheurs. Et donc, pour l'instant, c'est une phase 1B, donc c'est vraiment les stades tout précoces. Ils ont montré non pas une efficacité clinique, qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à voir. Et ils ont juste testé ça, vous voyez, sur quelques dizaines de patients. Mais ils ont montré qu'au moins, avec ce type d'approche, biologiquement, ça arrivait à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire ça diminuait la quantité de protéines tau dans le cerveau. Donc, ils vont aller plus loin et ce sera à suivre. Voilà mon petit tour d'horizon de la recherche en 2022.
Merci beaucoup. On voit que c'est pas si simple. On a des découvertes. On sait pas très bien pour qui, quand. C'est des questions qui reviennent souvent, qui m'ont été posées dès qu'on est rentré dans cette salle. On entend beaucoup parler de médicaments porteurs d'espoir, mais est-ce qu'ils sont vraiment accessibles directement aujourd'hui aux malades? On voit que même s'ils sont accessibles aux malades, c'est pas si facile de savoir précisément à qui les prescrire. Beaucoup d'espoir. En tout cas, le professeur Dubois dit qu'il y a aussi cette concordance, le fait qu'il y ait maintenant plusieurs médicaments qui avancent dans la même direction avec des effets positifs et que ça, c'est porteur d'espoir, comme s'il y a une nouvelle famille de traitements qui, demain, pourra nous aider à ralentir la maladie. C'est aussi votre point de vue, Nicolas Villain.
Tout à fait. Là, c'est quand même... Je l'ai présenté pour vous mettre en perspective l'efficacité, mais c'est une vraie nouveauté dans le sens où des médicaments qui vont diminuer la quantité d'amyloïdes et la quantité de protéines tau vont peut-être, eux, modifier le cours de la maladie, ce qui veut dire qu'on a possiblement effectivement une nouvelle vague de traitements, disease modifiers, qui vont modifier le cours de la maladie, qui vont être mis sur le marché. Ce qui veut dire qu'on est peut-être au début de ce qui s'est passé pour les chimiothérapies pour le cancer ou pour les trithérapies dans le VIH. On est d'abord arrivé avec un médicament en 1987, l'AZT, qui marchait un peu sur le VIH. C'était déjà exceptionnel puisqu'on ne pouvait rien faire à l'époque. Mais quand on regarde les données qu'ils avaient, c'était quand même pas grand-chose. Et les patients échappaient vite à l'AZT après en monothérapie. Donc on en a greffé un deuxième, puis un troisième. Et c'est comme ça qu'on fait des trithérapies, trois médicaments. Et les patients sont allés de mieux en mieux. Et bien, peut-être que l'Alzheimer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une monothérapie, le lecanemab, les thérapies anti-amyloïdes, puis après on va greffer un deuxième médicament, un anti-tau, puis peut-être un troisième, un médicament qui régule l'inflammation du cerveau, etc. Et qu'on va petit à petit freiner cette progression de la maladie.
Pour vous, les plus fidèles des invités aux entretiens Alzheimer, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on parlait de médicaments dont on voyait l'évolution et l'impact au niveau du cerveau, mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose au niveau des symptômes. Et là, on voit l'impact au niveau du cerveau et au niveau des symptômes. Et c'est bien sûr au niveau des symptômes que nous, on a envie d'aider nos proches.
Évidemment. Voilà, c'est la nouveauté avec ces médicaments, c'est qu'enfin, on a un effet sur les symptômes.